L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion avec l'association Lin et Chanvre en Bretagne que nous retrouverons régulièrement dans L'EM. On avait reçu son directeur François Dobzhinski il y a quelques semaines à propos des usages contemporains et même futuristes du lin et du chanvre. C'est de là qu'est partie l'idée de vous proposer une série d'émissions car le champ concerné est très vaste. Les champs de lin couvraient jadis le Finistère, une partie en tout cas. Ils ont fait la fortune de certains, ils ont fait naître des enclos paroissiaux majestueux et de jolis manoirs. Le chanvre, on le connaît moins de notre côté, mais il paraît qu'il y en avait en Bretagne. Bref, ces deux plantes font partie du patrimoine breton. C'est l'un des volets, le patrimoine, dont s'occupe l'association Lin et Chanvre en Bretagne, dont nous recevons aujourd'hui la présidente, André Le Gall-Sanquer. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà cette association, qui est même un réseau, en fait, Lin et Chanvre en Bretagne ?
Oui, c'est effectivement un réseau alors qui a trouvé naissance dans des animations qui ont été faites notamment dans le Nord Finistère, Riboulaline dans le pays de Morlaix, puis un travail dans les archives autour de Landerneau, puisque je suis aussi présidente de l'association d'Ourdoun, et qu'on a fait un travail de recherche autour de Landerneau sur cette histoire du lin. Et on a trouvé que le lin est effectivement très présent. D'où l'idée de faire une thématique en 2005 qu'on a appelée l'or bleu, avec une édition, avec des tables rondes. On avait déjà dans l'idée que cette histoire qui était une histoire passée pouvait aussi présenter un intérêt dans le contexte environnemental actuel et pouvait surtout avoir un futur. Donc on avait invité des scientifiques, des nutritionnistes, donc une grosse opération. On avait aussi fait un défilé de mode parce qu'il faut aussi se faire plaisir.
Et l'or bleu, c'est juste pour dire que la fleur de lin, enfin du lin textile en tout cas, est bleu quoi.
La fleur de lin. Alors, le lin, il y a plusieurs couleurs. Hein. Il y a du lin bleu, il y a du lin blanc, il y a du lin jaune et il y a du lin rouge.
Ah, j'ignorais pour le jaune et le rouge.
Voilà. Alors, le rouge est plutôt ornemental. Le bleu, c'est effectivement le plus courant. Et c'est une couleur très particulière. C'est ni bleu ni mauve. Mais un champ de lin avec sa couleur bleue, c'est magnifique.
Presque aussi beau qu'un champ de lavande, ou plus beau.
Oh, ça n'a rien à voir.
Ouais, c'est sûr.
Le champ de lavande, on n'en voit pas beaucoup ici. Les champs de lin, ils ont couvert quand même toute la côte nord de la Bretagne du 16e au 18e, 19e siècle. Donc c'est une plante qui a bien fleuri chez nous et qui a généré une économie forte en Bretagne.
Donc l'association Lin et Chanvre est partie plutôt du patrimoine. Donc il y avait aussi des associations très locales que vous avez fédérées en fait autour du patrimoine ligné, je suppose.
Oui. Donc quand on a fait cette opération là en 2005, le département des Côtes d'Armor a fait une grosse opération en 2006, faisant de 2006 l'année du lin en Côtes d'Armor. Donc chacun son tour. Et du coup en 2007, on avait aussi des contacts avec Noyal-sur-Vilaine, qui faisait un salon du chanvre. Et du coup, on s'est dit qu'on avait les mêmes envies.
Donc là, c'est dans le Lille-et-Vilaine.
Voilà. Ouais. Et on a décidé de monter un réseau régional. Donc on a mis en place les statuts, le réseau. Et à partir de 2009, on a eu, avec l'aide de la région Bretagne, on a eu un poste. Et donc on a pu travailler. Mais alors, une partie, on a quand même une partie sur l'histoire, sur tout ce qui est culturel. On a une valorisation touristique, mais on a aussi toute la partie économique qui fait partie intégrante de notre projet initial.
C'est ça. Donc on essaiera de parler de tout ça dans la série d'émissions qu'on va proposer sur Radio Évasion. Aujourd'hui, on va plutôt revenir sur la partie historique. Vous êtes donc... à la base, un peu historienne, en fait. C'était plutôt ça qui vous motivait au départ, non ?
Oui, alors là, je ne suis pas du tout historienne, puisque j'ai derrière moi une activité, un métier de sage-femme, donc rien à voir. Mais en fait, je travaille sur le patrimoine de la ville de Landerneau et de son territoire depuis plus de 30 ans. Donc c'est... Comme en matière de patrimoine, il n'y a pas d'exclusive. Le lin en faisait partie. Et la découverte de cette histoire forte du lin, de la présence de Candy sur le territoire, a quand même été un élément favorisant la suite des recherches et une motivation pour avancer.
Et c'est pour ça, c'est parce que aussi c'est vous qui avez créé ce réseau Lin et Chanvre que le siège est à Landerneau, en fait. C'est pour ça.
Tout simplement, parce que c'est plus facile quand on travaille avec un salarié de l'avoir à proximité. Alors, on a eu pendant quelques mois, on avait réussi à embaucher quelqu'un sur le tourisme et qui était en Ille-et-Vilaine. Et c'était assez bien aussi d'avoir quelqu'un qui venait de temps en temps à Landerneau, mais qui était basé en Ille-et-Vilaine. Ça permettait de relier les deux bouts de la région. Mais bon, on n'a pas pu la garder, malheureusement, mais il y avait plein de choses à faire dans ce domaine-là aussi.
Parce que la route des toiles, par exemple, qui est une route touristique autour du lin, je crois, ou des deux plantes, le lin et le chanvre, non, c'est une émanation de lin et le chanvre.
Oui. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. On essaye avec l'ESAP, l'école européenne d'art de Bretagne, là, de mettre en place une route virtuelle. Donc, on a déjà fait un travail de cartographie avec la région Bretagne, puisqu'on a fait l'inventaire du patrimoine linier et chanvrier en Bretagne. Donc, les candies, les blandiries.
On va peut-être rappeler ce que c'est. Ouais, c'est la difficulté. C'est que, bon, les candies, on en a déjà parlé. On a fait un reportage sur le candy de Comana.
De
Rosenoual, voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est un candy?
Alors, un candy, c'est un petit bâtiment qui a été... Alors, c'est une spécificité dans le sens où on en a recensé... On a un corpus aujourd'hui de plus de 600 éléments. Quand on a commencé sur le pays de Landerneau d'Aoulas, on en avait repéré plus de 350 qui ont existé, pas forcément en même temps. Mais donc, c'est un peu comme les enclos paroissiaux, si vous voulez, ils sont situés sur un territoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, mais on n'en a pas trouvé ailleurs. Dans le Nord Finistère, on blanchissait les fils, alors que dans les Côtes d'Armor, on blanchissait les toiles une fois qu'elles étaient tissées. Et donc, pour blanchir ce fil... nos ancêtres ont construit des petites maisons, des petites buanderies. Hein, candy, ça veut dire de cana, blanchir et tis maison. Et donc, ils ont construit ces petites maisons qui ont des éléments un peu spécifiques. On a un bassin en eau courante. Donc, quand on trouve une petite maison, une petite bâtisse dans la campagne dans laquelle il y a un bassin en eau courante, on imagine bien que ce n'était pas pour y habiter. Donc, c'était forcément pour blanchir le fil.
Donc, il y a une rivière qui passe dedans, en fait, en gros, c'est
ça. Un ruisseau. On n'a pas besoin de la force hydraulique. Oui. Hein, on a besoin juste d'avoir un filet d'eau, c'est pour rincer les fils. On a une cuve circulaire. Alors, qui peut être en granit ou en bois. Quand elle est en granit, elle est faite de deux parties. Une partie basse avec un fond et une bonde et ce qu'on appelle une rehausse qui est posée dessus, hein, avec un joint de chaux entre les deux. Et on a quand même un diamètre de 1m30 à 1m50 et une hauteur d'1m60 à peu près. Et donc, les échevaux de fil étaient suspendus dans la cuve avec des poches de cendres de hêtre, puisque le hêtre n'a pas de tanin et qu'on veut blanchir, et qu'il a un pouvoir saponifiant qui est important.
Donc ça permettait de laver la fibre.
De blanchir, en fait. Oui, de le faire. Alors, pas de le faire devenir blanc immaculé, hein, loin de là, mais quand même de le rendre plus blanc, ce qui mettait quand même une valeur ajoutée importante. Et le fil dans la cuve représentait une valeur qui était telle qu'on le surveillait. Donc, on a trouvé dans certains candies, alors on a trouvé dans les archives aussi, puisque nos sources, c'est le cadastre napoléonien, mais c'est aussi les inventaires après décès. Et on a trouvé quelquefois qu'il y avait une couchette, comme dans celui de Ploudiri, où il y a un décochement à côté de la cheminée, où il y avait quelqu'un qui dormait. Alors, souvent avec un fusil ou un chien, hein. Je vous parle du 18e, puisque c'est là qu'on a le plus de matière pour faire la recherche. Et il nous est arrivé dans un inventaire de trouver un lit clos dans un candy, mais une seule fois. Donc c'était quand même des paysans qui étaient riches et qui avaient ou des donneurs d'ordre qui étaient riches et qui avaient la possibilité de mettre un lit clos dans un candy.
Donc ces candies, c'est spécifique au Finistère.
Au Nord Finistère.
Ouais, ouais. Au Nord Finistère. Et donc 600, vous dites à peu près. Voilà. Donc ça, ces candies, ils ont été construits dès le 16e ou peut-être pas.
Du 16e au 18e, on n'a pas forcément de date. Hein. Alors on a des constructions qui sont toujours très soignées, mais avec des matériaux qui sont plus ou moins riches. Donc j'ai parlé des cuves qui étaient en pierre, mais quelquefois les cuves sont en bois et elles sont scellées sur des dalles de schiste ou des dalles de granit. Et elles sont cerclées de trois cercles de fer. En fait, ça ressemble à un tonneau, oui, mais en sapin, puisque, pareil, il n'y a pas de tanin.
Mais on a pu en retrouver des à peu près conservées, bien qu'elles soient en bois.
Non, ouais, en bois, non. On a trouvé les dalles de scellement, mais pas le bois. Bon. Et le troisième élément, donc, c'est la cheminée, puisqu'il fallait chauffer un peu l'eau pour que... pour permettre à la cendre d'être plus efficace.
Donc ça, c'est du petit patrimoine ligné. Vous disiez, vous citiez un autre type de patrimoine ligné, les blanc-d'Iris. Dans ces
coups, les blanc-d'Iris. Alors, dans les Côtes d'Armor, on blanchit les toiles une fois qu'elles sont finies. Et il y a alors un corpus qui est beaucoup moins important. Après, dans le cadastre napoléonien, les recherches ne sont pas toujours très faciles parce qu'elles ne sont pas toujours notifiées. Mais une blanc-d'Iris, en fait, est constituée de bassins dans lesquels on va tremper les toiles. Mais vous avez, alors on a remarqué qu'à côté, vous avez toujours un petit bâtiment dans lequel on pouvait chauffer l'eau. Les bassins sont à l'extérieur, mais il y a un petit bâtiment qui est souvent en ruine aujourd'hui, mais dans lequel il y avait une cheminée. Donc, on avait un peu le même principe de la cendre pour blanchir les toiles. Et vous avez toujours à côté un petit champ qui permet, le courtier la file, qui permet d'étendre les toiles pour finir de blanchir avec le soleil, la lune, enfin tout ce qui est les éléments naturels qui permettaient de finir ce blanchiment. Et puis, dans les Côtes d'Armor et ailleurs, là, il y en a un peu partout en Bretagne, vous avez les bassins à rouir. Alors, rouissage, c'est la première opération, donc il ne faut pas confondre avec les candies et les blanchisseries. Les routoirs servent à rouir le lin. Donc, alors, j'aime pas du tout dire qu'on va le mettre à pourrir, parce que c'est pas ça du tout. Quand c'est pourri, c'est fichu.
Bah oui.
Donc, c'est vraiment une opération qui est très, très fine, mais qui est nécessaire. Et si le lin n'est pas bien rouillé, on peut pas le travailler après. Donc, c'est une opération qui vise à enlever cette pectine qui lie le bois qui est au milieu, la fibre qui est autour.
Elle rendre moins ligneux, si on veut, quoi.
Oui,
c'est ça. L'assouplir, on pourrait dire ça.
Oui, carrément. Commencer la séparation, en fait. Donc, cette pectine-là se dissout, mais pas que dans l'eau, mais avec les micro-organismes qui favorisent sa décomposition, plutôt. Voilà. Et donc, on trouve des bassins. Alors, le rouissage en eau courante était quand même polluant, donc ça a été abandonné.
Ah oui, pourquoi ? C'était polluant ?
Oh ben parce que les produits qui s'échappent sont polluants. Et donc, les routoirs, en fait, on a un corpus là qui est énorme. On est plutôt plus près de 4 000, 4 500 dans les Côtes d'Armor, dans le Trégor notamment, où on a des circuits de routoirs, des routoirs qui sont en chapelet. Mais en faisant un travail sur le cadastre napoléonien, on a trouvé qu'à Plouinec, il existe
lequel
aussi...
Plouinec, le 56 ou le 29?
Le 29. Bien sûr. Puisqu'on a fait le travail sur l'ensemble, mes collègues ont fait le travail sur l'ensemble du Finistère, et on a découvert qu'il y a une trentaine de routoirs, mais là, sans doute des routoirs à chanvre, puisque quelqu'un de la commune m'a dit qu'il avait entendu parler des lavoirs à chanvre et qui sont disposés en chapelet.
Et c'est grand comment, en fait, un bassin à rouir ou un bassin à chanvre, à la limite, enfin, si c'est grand.
Alors, c'est très variable, mais c'est relativement grand quand même. Ça fait bien 10 mètres de long. Enfin, il y a toutes les tailles, mais c'est relativement grand.
Donc, on en trouve encore des traces, voire des presque intactes.
On en trouve encore des traces. Et il y a une association dans le Trégor qui s'est mis en tête de les restaurer. Mais on en trouve un petit peu partout, mais c'est pareil, on a une concentration dans le Trégor.
Et donc pour ce qui est de... Donc la Plouinec, par exemple, ce n'est pas dans le Nord Finistère, donc vous disiez c'est plutôt du chanvre.
C'est plutôt du chanvre dans le Sud Finistère, oui.
Et il y avait une répartition comme ça géographique. Donc le lin, c'était, vous disiez, plutôt sur la côte, nord.
Dans les zones limoneuses de la côte.
Voilà, c'est lié au sol, en fait.
Oui, c'est lié au sol.
Ils font un sol léger, un peu sableux, c'est ça
Un sol riche. C'est là où on fait les légumes maintenant. Donc,
exactement, c'est la ceinture maraîchère. Quoi, en
là
fait.
Où on pourrait refaire du lin encore.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et pour ce qui est du chanvre, nous, alors on a l'impression qu'il n'y en avait pas dans le Finistère. Vous allez peut-être me détromper.
Si vous dites ça à l'Ocronan, ils vont vous dire que c'est pas vrai. Les aulnes de l'Ocronan étaient des toiles qui étaient connues. Alors c'est vrai que le développement du chanvre pour les toiles à voile du XVIe au XVIIIe siècle, ça a été plutôt dans la région de Noyelles-sur-Vilaine, Vitré, où on a un riche patrimoine qui est lié aussi à cette activité-là. Alors peut-être qu'on trouve effectivement moins de patrimoine vernaculaire autour du chanvre. On trouve un petit peu de four à chanvre. Et nous, quand on a fait l'inventaire il y a maintenant plusieurs années, on n'en a pas trouvé beaucoup. Et puis là, les réseaux sociaux, ça a quand même ça n'est pas que négatif, ça a plein d'aspects positifs. Et là, je vois que circulent aujourd'hui des découvertes de fours à chanvre. Alors, on est venu à Saint-Brieuc.
Il faudrait peut-être nous expliquer justement, parce que le lin, donc on comprend un peu comment ça fonctionne, parce qu'on en a déjà parlé, le chanvre. Comment est-ce qu'on le transformait en textile? En gros, c'était quoi le processus?
C'est pareil, on sépare le bois de la... Mais si vous voulez que ce soit le lin ou le chanvre, on a des opérations où on met dans l'eau, où on sèche. D'accord. Parce que pour faire le taillage, une fois qu'on a fait le rouissage, pour tailler, il faut que le lin soit sec et que le chanvre soit sec.
Tailler, c'est quoi?
C'est séparer la fibre du bois. Donc, dans les deux plantes, c'est pour ça qu'elles sont mises en parallèle. D'abord parce qu'elles ont des propriétés très complémentaires. Hein. On ne fait pas la même chose. Du 16e au 18e, on avait besoin, dans toutes les fermes, il y avait du lin et du chanvre parce qu'on ne fait pas la même chose avec le lin. On fait tout ce qui est toile fine, tout ce qui est linge de maison, tout ce qui est chemise fine. Avec le chanvre, on va faire les cordages, puisque le lin textile pousse à 1,20 m de haut. Le chanvre, 3-4 cm. Donc, on n'est pas du tout sur la même chose et la plante est beaucoup plus grosse. Donc, on va faire des cordes, mais on va faire aussi des vêtements de travail. On va faire aussi des sacs, des toiles d'emballage. Enfin, bon, il y a plein de... Les usages sont très complémentaires. Donc, on en trouve un petit peu partout.
Et ils poussent partout à peu près pareil, enfin, ils ont besoin du même
environnement. Le chanvre pousse, alors je ne veux pas dire que ça pousse facilement, mais il peut pousser. Alors, on a trouvé plus dans le sud Finistère, oui, dans des régions qui sont plus éloignées de la côte.
Il n'a pas besoin de sol aussi, il n'est pas aussi exigeant en termes de sol. Ouais. Quoi.
Ouais. Dans des statistiques du 19e, on a trouvé des proportions de lin et de chanvre qui s'inverse quand on va de la côte vers l'intérieur du Finistère. Vers la côte, on a beaucoup plus de lin et dès qu'on va vers l'intérieur, on a des surfaces qui s'inversent.
Mais c'était en Bretagne, en tout cas, c'était essentiellement du lin et du chanvre textile. Enfin, il n'y avait pratiquement pas de graines, soit de culture de semences, soit carrément pour l'alimentation.
Alors, les cultures de semences, on en faisait sans doute un peu, mais très peu, puisque quand on fait du lin textile, on n'attend pas que la graine soit mature. Et donc, les graines venaient de la Baltique par le port de Roscoff. Donc, l'importation se faisait par le port de Roscoff, qui faisait après la distribution sur le nord de la Bretagne par cabotage. Alors, ne me demandez pas pourquoi Roscoff. On n'en sait rien, mais en tout cas, la richesse de Roscoff, les belles maisons de Roscoff, je pense qu'ils trouvent leur origine là.
C'était pour toute la Bretagne.
Pour tout le nord de la Bretagne.
Bon. Et le chanvre, en revanche, on faisait ses semences, non?
Alors, le chanvre, les semences, c'était, ne venait pas du nord de la Baltique. On était sur des productions plus locales. Après, le lin, on faisait aussi d'une production locale, hein, mais un peu différente. Ouais.
Et pour ce qui était de s'alimenter en graines de lin, non, c'était pas encore...
Alors, du 16e au 18e, on avait du lin et du chanvre dans toutes les fermes. Bien sûr qu'on se servait de toute la plante.
Ah ouais.
On faisait des cataplasmes, mais encore aujourd'hui... on a fait un spectacle à Landerneau il n'y a pas très longtemps avec des chevaux et le gars me disait qu'en fait il fait toujours des cataplasmes de lin à ses chevaux quand il y a un abcès, il met un cataplasme de lin et ça permet à l'abcès de mûrir bien plus vite. Et c'est quelque chose qui était connu dans les campagnes, on s'en servait comme pour les animaux. L'huile de lin, on s'en servait au quotidien aussi. Enfin, on savait utiliser toute la plante. On a trouvé dans le cadastre napoléonien, en travaillant sur le pays de Landerneau, là, que du temps de la société linéaire, puisque après les manufactures, il y a eu quand même cet essai de mécanisation avec l'installation de la société linéaire à Landerneau. Et on a trouvé à l'époque, mais sans qu'on ait aucun lien, aucune trace autre que le cadastre napoléonien, des moulins à huile dans le pays de Landerneau. À huile de lin, ben oui, parce qu'il n'y a pas de noix dans le pays de Landerneau d'Aoulas, et on l'a trouvé à La Roche il n'y a pas très longtemps, mais il y en avait deux à Landerneau aussi. Bon, les moulins ont eu plusieurs utilisations, mais oui, il y a eu des moulins pour l'huile, donc les graines de lin étaient transformés en huile donc à cette période-là, mais sans qu'on ait d'autres traces à l'heure d'aujourd'hui, mais on finira par trouver.
Et alors sur le patrimoine plus prestigieux entre guillemets, le lin donc était vraiment exporté, on peut dire c'était un commerce international, c'est ça, en gros, hein, les toiles de lin, elles étaient vendues aux Espagnols, aux Anglais, c'est ça
Oui. Les bateaux partaient. Les bateaux, Jean-Yves Besseliève disait avec humour que les bateaux qui ont découvert l'Amérique, en fait, ils venaient d'où ? Ils venaient de Bretagne. Ils avaient des voiles de chanvre breton. Les marins étaient habillés de lin breton. Dans les cales, il y avait des ballots de lin. Donc, c'est bien la Bretagne qui a découvert l'Amérique. Voilà.
C'est un raccourci,
mais on sait bien que c'est ça. Voilà. Donc, c'était exporté. Alors, ces toiles, en fait, si elles ont été renommées, c'est parce qu'elles étaient très encadrées dans leur production. On avait des règlements des toiles. On va avoir dans le prochain cahier de Dourdon, on aura un article de Jean-Pierre Thomas sur justement ces règlements d'étoiles, parce qu'on connaît tous le règlement de 1736 avec 53 articles qui en fait un véritable cahier des charges. Mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est une reprise des règlements antérieurs. Donc, pour l'instant, on n'a pas retrouvé, mais voilà, c'est une adaptation de ces règlements qui se fait au fur et à mesure. Donc, tant que ces toiles ont été encadrées dans leur fabrication, c'est vrai que ça a bien marché. Alors, évidemment, comme je suis présidente, je rêve. Hein, et je rêve de trouver un jour, je pense que tous les présidents ne rêvent pas, mais moi, je peux rêver, de trouver une toile avec une marque.
À la belle qualité, là,
voilà,
dessus.
La marque,
vous ne l'avez pas trouvée encore. Ouais.
Bah non, parce que les tampons étaient détruits tous les ans, mais on n'a jamais trouvé une toile avec cette marque de Landerneau ou de Morlaix, puisque Landerneau et Morlaix, c'était la même histoire. Hein, c'était l'histoire des craies, c'est comme ça qu'on les appelait, les toiles qui étaient produites ici. Dans les Côtes d'Armor, on fabriquait les Bretagnes. Et il faudrait qu'on aille en Amérique du Sud.
Bon,
pour essayer de trouver.
Je ne sais pas si on nous écoute en Amérique du Sud, mais l'appel est lancé.
Exactement.
Et donc, ça a généré une richesse dont on voit encore les traces dans le paysage. Donc cette fois, c'est du patrimoine un peu plus prestigieux, hein, n'est-ce pas ? Enfin, même les enclos paroissiaux, les manoirs. En gros, c'est ça.
Oui. Alors les enclos paroissiaux, c'est vrai que c'est un bel exemple puisque les donneurs d'ordre au XVIIIe siècle, c'est les donneurs d'ordre. Avaient bien sûr de l'argent. Hein, tous les petits métiers qui travaillaient le lin n'étaient que des gagnes petits, en fait.
Ils n'avaient pas de manoir.
Souvent, ils n'avaient même pas de candy, ou alors c'était en indivis entre plusieurs. Et effectivement, cette richesse qui a été générée par cette activité a permis la construction des enclos paroissiaux, mais aussi tout ce qui est dans les enclos paroissiaux, c'est-à-dire le travail des artistes, que ce soit les orfèvres. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le département a aidé à la mise en place de vitrines sécurisées qui permettent d'exposer des pièces d'orfèvrerie. On avait au 18e...
Pour les trésors, quoi.
Oui, on avait plusieurs orfèvres à Landerneau. Là, par contre, on a retrouvé les pièces et les tampons. Hein, donc, on a une collection sur le Nord Finistère qui est quand même importante. Le statuaire, hein, en bois, en pierre, ça a permis à tous ces artistes-là de travailler. On dit que s'il n'y avait pas eu le déclin du lin, on aurait perdu nos églises. On voit qu'effectivement, au 19e, toutes les églises qui étaient en mauvais état, qui étaient inondées, pour lesquelles on n'avait pas les moyens de réparer, on a démoli et on a refait des églises style 19e.
Beaucoup moins jolie.
Sacrée du 19e. Moins jolie, beaucoup. On a plein d'exemples comme ça.
Moins soignée, on va dire.
Donc, le plus vieil enclos, c'est celui de la Martyre. Voilà, il est comme il est. Il a sûrement besoin encore de restauration, mais il est quand même la marque. La richesse n'est quand même pas la même.
Ouais,
au niveau architectural, ça, c'est pas comparable.
Et donc, s'il n'y avait pas eu le déclin du lin, on aurait tout reconstruit, c'est ça en fait.
Oui, voilà.
Ok. Donc là, grâce à ça, on a.
Voilà. Mais il faut toujours voir le verre à moitié plein.
Mais oui, tout à fait. Et donc, pourquoi le lin a-t-il décliné en Bretagne ?
Alors, il y a eu un essai de mécanisation au 19e avec la société Linière, qui a quand même été une grosse entreprise, qui a été montée par les négociants de Morlaix et de Landerneau, hein, qui se sont associés, qui ont trouvé des capitaux et qui ont monté cette entreprise. Mais qui avait. Alors, les statuts ont été déposés en 1845, mais déjà dès 1820, on avait des ateliers qui étaient organisés, puisqu'ils travaillaient avec des ateliers où ils avaient. Ils avaient rassemblé des tisserands, hein, que ce soit à Comana, à Ploudiri. Il y en avait un petit peu partout sur le territoire et ça s'est développé après. Mais là, en 1891, ils ont fermé l'usine parce que la vapeur est arrivée, donc les bateaux avaient moins besoin de voile. Le coton était arrivé, donc voilà, il y a eu la fermeture des marchés anglais. Enfin bon, il y a eu plein de choses qui ont fait que...
On n'aurait pas dû découvrir l'Amérique avec du lin si c'était pour faire venir du coton à la fin, quoi.
Exactement.
C'est dingue quand même. Exactement. Cette histoire.
Bon, c'est l'histoire du chemin de fer, si vous voulez, qui permet aux gens de partir, mais qui leur permet aussi de venir. Donc il y a toujours... Il y a toujours un aller-retour qu'il faut, voilà, il faut qu'il y ait une balance qui soit équilibrée. Et là, bon, ben voilà, donc ça s'est terminé. Après, dans les Côtes d'Armor, ils n'ont pas réussi. C'est plus le département qui a voulu initier la mécanisation. Et comme ils n'ont pas réussi à rassembler les capitaux, ils ont plutôt monté des petites unités de transformation sur les lieux où on transformait déjà. Et du coup, ces taillages-là, qui ont souvent utilisé la force hydraulique des moulins, ont perduré beaucoup plus longtemps et on les a trouvés jusqu'en 1960, hein, 1968, hein, donc dans les Côtes d'Armor.
Très bien. André Le Gall-Sanquer, on va s'arrêter là, on va s'arrêter sur l'histoire, mais on sait que cette histoire, elle pourrait recommencer et ça sera l'objet de nos prochaines émissions. Merci beaucoup.
Eh ben, merci à vous, bonne journée.